too.
Dans cette release de CPU, du débit luminique par giga, des chaînes télé par milliers, des services par centaines, et dans une box unique, tous les liés. Nous recevons Infested Grunt et Johan Ferré, journalistes spécialisés en opérateurs internet. Et j'espère que tout le monde a coupé le téléphone. Oui, il est inclus dans le forfait. Ok, c'est parti. Bonjour et bonne année, Infested Grunt.
Bonjour et bonne année, cher Dasrich.
Bonjour et bonne année, Johan Ferré.
Bonjour et bonne année à tous les deux, du coup.
Eh bah oui, mais c'est un immense plaisir de se retrouver. Et bonjour à toi, bah enfant du futur immédiat, toi qui piaffe d'impatience pendant la resynchro à DSL. Désolé. Peut-être que ta connexion à Internet ne passe pas par un opérateur mobile, mais par un opérateur filaire, en ADSL ou en fibre optique. Peut-être es-tu client d'un opérateur dit grand public, par opposition aux opérateurs associatifs tels que les membres de la FFDN, ou les opérateurs pour entreprises tels que OVH ou FullSave. Alors, si tu es client d'un des quatre gros opérateurs, ta connexion Internet passe forcément par une box à leur couleur. Et derrière cette box, il y a un monde complexe opéré par ton fournisseur d'accès à Internet, qui te promet, en plus d'Internet, les appels téléphoniques, les chaînes de télévision et autres services et tout ceci pour un prix, tout compris, absolument magnifique. Excuse-moi, je n'ai pas Laurent Cherrier tout, qui veut. Internet ne s'est pas construit en un jour. Une des grandes difficultés fut de transformer les réseaux hétéroclites interconnectés en réseaux interopérables, travaillant avec des protocoles communs. Faire en sorte qu'une prise à modem, les logiciels pour se connecter, soient exactement identiques quel que soit ton fournisseur d'accès à Internet. Interopérable. Tu peux brancher ton laptop chez ta mamie du Cantal. Aucun besoin de config par Ethernet, l'ordi trouvera l'accès tout seul vers ton serveur Minecraft. En 2000, l'accès Internet passait via des modems d'un quelconque fabricant refourgué par ton FAI et qui ne délivrait qu'une chose, du bon Internet qui marche de partout. La Raymanta vert bleu de Wanadoo a été l'emblème du lancement de l'ADSL en France et tout le monde a oublié que c'était Alcatel qui la construisait et que la Ray, si elle n'est pas déjà cuite hein, dans une sauce ou les copros, qui sait, peut encore marcher et pas que chez Orange d'ailleurs. À l'époque, Free ouvrait son accès Internet à tout modem 56K gratuitement et sans pub. Eux aussi sont passés à l'ADSL dès que possible, décidés en découdre avec l'ancien monopole téléphonique et les autres nouveaux entrants. Leur marque de fabrique fut la montée en débit avec l'évolution de la technologie. Sans surcoût. À la différence des concurrents comme AOL France qui, en blémir, on a la preuve en vidéo. Et pour cela, tu iras sur le site cpu.pm pour aller voir la vidéo. Pourquoi Free facturer le même prix d'accès 128K quand elle est passée à 2 mégas? Parce qu'on te faisait bien sentir que la personne la plus importante après le PDG Xavier Niel n'était pas le directeur commercial ou les actionnaires, mais les ingénieurs et les techniciens, Rani Assaf en tête. D'où aussi l'envie de mettre plein de features démentielles dans le forfait de base plutôt que de tenter de te les vendre en option. Un jour de 2002, ils ont proposé que leur offre ADSL passe par une box maison conçue en interne. Un gros truc noir qui ressemblait à un magnétoscope où tu pouvais brancher ton téléphone derrière et surtout ce qui ressemblait fortement à une prise Péritel. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et cette box a ouvert la distribution télé par ADSL avec notamment l'idée qu'on n'envoie plus toutes les chaînes en même temps comme le fait le câble ou le satellite mais que le terminal requête la chaîne voulue aux centrales téléphoniques. Une technologie équivalente par téléphonie analogique avait été déjà expérimentée en 1992, mais le rendu était vraiment une horreur, l'image était parasitée dès qu'on dépassait la centaine de mètres. Je sais, je l'ai vu. Free avait transformé un FAI gratuit via le vieux modem Criard en FAI payant sur la DSL qui vend aussi de la téléphonie et de la télévision à des prix ras de plancher. Alors la télé, cela semble accessoire, mais quand on n'avait pas la télé numérique, la TNT, on avait l'image qui était souvent brouillée, le son, j'en parle pas, et seulement cette chaîne. Oui, à Toulouse, on avait Télé Toulouse. Coucou Johan. Avoir 25 chaînes de plus, c'était cadeau quand on voyait les tarifs assez chers du câble et de CanalSat. Et oui, déjà à l'époque. Mais voilà, l'opérateur a commencé à propriétariser son réseau. Il y a bien eu des tentatives de FAI de propriétariser leur Internet pour les transformer via leur portail en espèce de centre commercial. Mais ils ont coulé MSN, Glou, AOL France et Glou. Et glou les autres. Et du coup, est-ce que l'opérateur réseau ne serait pas tenté de brider certains services Internet pour ne pas pénaliser ses services vendus via sa box spécifique? Comment ça, je suis parano? Ouais, bah moi, j'ai pas oublié les déboires de Netflix sur le réseau de Free entre 2015 et 2017. Et qui se rappelle très fortement l'impossibilité d'utiliser certains services de Google entre 2012 et 2015? Eh ben oui, encore une fois, c'est Bibi. Des problèmes d'interconnexion, c'est-à-dire que la taille de câble entre l'opérateur français et le service pénalisé, le nombre d'utilisateurs chez Free aidant à accentuer la difficulté d'accès et donc le public mécontent. Alors, je ne dis pas que le problème était forcément intentionnel, mais le doute subsiste. Enfin bon, en fond du futur immédiat, une box d'opérateurs Internet est à la fois une porte d'entrée vers Internet et une boîte noire sur des services proprio. Mais elle distille une magie soutenue par le discours commercial. Quand en 2010, Xavier Niel présenta sa Freebox Révolution dans un show digne de Steve Jobs, il conclua son spectacle par une anecdote sur le couscous boulette de sa mamie. Et 8 ans après, la presse spécialisée s'en délecte encore. Gonna get up, gonna get up. Black Box, Wine on Time. We'll be right back. On aurait pu tenter d'avoir les ingénieurs de la Freebox, mais la préparation de l'émission sur le réseau Free Mobile s'est retrouvée bloquée par la politique de com très 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 cadrée de Free. Or, recevoir les communicants ne nous intéresse pas, c'est pas le but de l'émission CPU. Nous avons dû donc nous rabattre sur les journalistes qui pratiquent cet opérateur internet comme la communauté en tant que site d'information spécialisé, mais pas aveuglément fan. Nos usuels suspects sont donc Infacet Grunt, journaliste pour les Échos du Net, contributeur sur Radio FMR dans CPU et aussi le samedi à midi dans Crossover, spécialiste manga toute taille de bonnet et maître en bière artisanale.
Oui.
Ça sent la promo, ça.
Ah non, je vais pas faire de promo encore.
Non, ça, je veux dire, ça sent la montée en grade.
Oui, c'est vrai que là, je suis éligible à Master S Bière.
Bravo. Et par satellite, nous a rejoint Johan Ferré, journaliste de freenews.fr, fondateur de cafégaming.fr et point de vue social, il coproduit une excellente chaîne vidéo avec Laurent Charrier et j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Est-ce que ce serait pas point de vue social ?
Ah, je me disais aussi.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. CPU carré petit utile. Pour commencer, donc une obligation du CSA, il faut que vous me citez trois autres FAI qui ont une box.
Livebox d'Orange, B-box de Bouygues, la box de SFR, la box de la Poste Mobile, la box du CIC et du Crédit Mutuel.
Donc en clair, la box, quand on est vers le grand public.
Ah oui, c'est le point d'entrée. C'est un point d'entrée. La plupart des offres, il est devenu très très rare de trouver une offre avec juste Internet.
Free a-t-il vraiment inventé le triple play, donc l'accès Internet, la téléphonie et la télé over IP?
Inventer le triple play, c'est un peu difficile à dire, à définir ce que c'est. Qu'est-ce que le triple play? Bon, c'est une facture. Ce serait plus exact de dire qu'ils ont introduit, en tout cas, le concept de box triple play. C'est, comme tu disais en introduction, c'est le fait de sortir une box qui a déjà, tiens, c'est bizarre, un port pour brancher une deuxième ligne téléphonique dessus. Parce qu'à l'époque, ils disaient deuxième ligne. Hein, la première ligne, c'était la ligne France Télécom. Et un boîtier Péritel, tu disais. Il y avait une prise Péritel qui au début ne servait à rien d'ailleurs sur cette Freebox, qui effectivement cette connectique là qui a servi presque un an plus tard, je crois. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ce concept là qu'ils ont introduit en fait. C'est vraiment l'idée d'avoir la box et la capacité hardware d'ajouter des services. C'est plus ce côté là.
Parce qu'en fait, tu avais déjà, pour le triple play, tu avais déjà des offres qui existaient chez des concurrents, Neuf ou Wanadoo à l'époque, où tu avais d'un côté une box internet, téléphone, et de l'autre côté, tu devais prendre un décodeur chez CanalSat DSL ou TPSL. En gros, c'était les services de satellite, mais sur un boîtier, sur un décodeur TV. Un truc qui est assez marrant, c'est que Free a réuni tout ce matériel-là, le décodeur et la passerelle, enfin le modem routeur. Et finalement, ils s'en sont séparés un peu plus tard, avec la Révolution.
Eh oui, c'était avant. C'était la V5.
La V5, pardon.
Donc, il y avait déjà le câble télé qui a proposé la téléphonie et après Internet et qui passait déjà par une set-top box. Donc, la différence de Free, c'était vraiment ça. C'est qu'ils avaient d'abord réuni ou qui...
Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que depuis le câble, ils avaient d'abord démarré avec la TV. Ensuite, ils se sont dit, on va pouvoir ajouter de la téléphonie. Et puis, il y a Internet qui est arrivé derrière. Et les grands spécialistes comme Comcast aux États-Unis, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient un boîtier de chez Motorola et il y avait un port Ethernet qui était déjà disponible, mais seulement ils ne l'ont pas activé. Et c'est uniquement quand le concept un peu de Vox est arrivé depuis la France qu'ils se sont dit « Ah, mais si on activait ce putain de port qui ne nous sert à rien ?» Du coup, ils se sont dit « Là, on va vous proposer une solution pour avoir de l'Internet par ce biais-là. »
Sachant que donc le câble, c'est une technologie broadcast, c'est-à-dire qu'ils envoient toutes les chaînes, donc il ne faut pas les requêter effectivement au serveur à chaque fois.
Tout à fait.
La contrepartie, c'est que en fait, tu reçois les trames Internet des autres.
Ça, c'est du filtrage. Ça, c'est ils se sont amusés là. Je peux t'assurer.
Ils ont mis du temps à filtrer, si je me souviens bien.
Oui.
Yoann ?
Oui, non, c'est exactement ça. En fait, la différence de Free, c'est ça. C'est en fait, et puis tout simplement, c'est d'apporter ces services-là sans augmenter le tarif. Hein. On parle à l'époque, hein, évidemment, c'est autre chose maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, l'idée, c'était t'as payé un prix qui correspond à Internet, donc tu payes juste Internet, mais avec, on va t'apporter d'autres choses. Et voilà, c'était ça la différence. C'est-à-dire que je pense que sinon, les gens n'auraient pas manifesté l'intérêt pour ces services-là si on leur avait fait payer en option. Alors que, bah, si c'est offert, bon, bah, par curiosité, on va brancher la télé, on va regarder ce que ça donne.
Aussi, ce qu'a fait Xavier Niel, ils ont amené pas que la télé et les chaînes payantes, ils ont aussi hacké le système, ils ont eu un rabais de TVA. Ils ont voulu gratter sur les câbles opérateurs leur astuce.
Ah oui, mais
ça c'est clair. Hein.
Ça, de tout temps, Free a été assez malin de ce côté-là, c'est clair.
Qui est de combien les taux de TVA entre les deux?
Alors, à l'époque, c'était 5,5.
Ouais.
La TVA, et on était encore à 19,6. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2011, il y a eu le grand changement des TVA, où le 19,6 est devenu 20%, et où la TV n'était pas considérée comme un élément, urgent, nécessaire. Et du coup, ils sont montés sur un taux de TVA intermédiaire qui est 10%. Et autant te dire que cette année-là, je me souviens encore, les mecs, ça râlait parce que le truc qu'avaient fait les opérateurs, la plupart des opérateurs, c'était de dire, on monte à 10% et puis on laisse le tarif comme ça. Mais le tarif TTC, au final, il montait de 1 ou 2 euros à peu près. Mais ils ont dû faire machine arrière.
Comment font les fournisseurs d'accès français pour que ça soit si peu cher? Les box, notamment. Est-ce que c'est le volume commandé? Est-ce qu'ils achètent des box qui sont designées par d'autres boîtes en marque blanche?
Alors, pour Free, c'est simple. C'est eux, ils font tout chez eux. Ça, il n'y a pas de souci. Pour les autres, en fait, ils font des commandes. Ils font des commandes auprès de constructeurs comme Sagemcom, comme B1, comme... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Moi, je me souviens sur Thomson.
Tu veux dire que même Orange, qui se vante de créer des produits, en fait, leur box télé, elle est...
La box TV, c'est du Sagemcom, c'est du Thomson. Les boîtes, c'est Sagem. Ça a même été ZTE. Tu vois, il y avait même du chinois à travers. Les derniers, ce sont que des Sagemcom. Mais en fait, souvent, c'est des modèles qui sont déjà disponibles, mais on refait juste le design. T'avais les premières Livebox, par exemple, j'avais la référence, c'était Fast 3302. C'était un modèle que tu trouvais chez Orange pour la Livebox Sagem à l'époque. Et tu le trouvais chez Belgacom, chez un concurrent qui a été ravalé après en Alice. Mais après, si tu veux, t'avais juste ce modèle et ensuite tu le déployais à mort. T'en avais un autre. Ah oui, si t'avais un modèle, il a fait la 9box, la CGTel box, la Alice box et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Non, c'était un petit FAI, un truc à la con qui existait à l'époque, mais tu avais exactement la même c'était le même modèle mais avec des calendres différents en fonction de l'opérateur. Bah, t'en avais une qui était blanche, c'était pour 9, et la noire c'était pour CGTel, c'était pour donner l'idée.
Ah oui, quand même. Oui.
Ah, Yohana.
Et au-delà de ça, il y a vraiment le côté, ça c'est ce que tu décris, c'est pour le hardware, et c'est vrai qu'en termes, il y a vraiment ce qu'on appelle l'effet forfait, c'est-à-dire que Free, par exemple, va proposer un gros débit, plein de services, mais en pariant très fortement que tout le monde ne va pas tout utiliser tout le temps et en même temps. Donc voilà, c'est vraiment cet effet-là qui va jouer et qui permet de proposer des tarifs qui restent quand même relativement réduits.
Free, Bouygues, SFR revendent-ils leur techno de centrale téléphonique, ce qu'on appelle NRA, NRO, la box et tout ça, vers d'autres FAI? Est-ce qu'il y a une French Tech qui s'exporte de ce côté-là ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout.
là, on est d'accord. La plupart, en fait, c'est plus l'inverse. On récupère plutôt des technos qui sont déjà existantes et qui arrivent de grands équipementiers comme Ericsson.
Donc, il n'y a que Free qui a une nouveauté? Dans la fortune personnelle de Xavier Niel, il y a un opérateur monégasque, il y a aussi un FAI suisse. Ça ne s'exporte pas encore.
Alors, je rappelle qu'il a aussi un FAI irlandais récemment. Là, par contre, c'est Iliad qui est aussi dans le lot. Mais non, si tu veux, le truc là, c'est que même eux, même Fried, pour les DSLAM, Ouais. C'est du matériel d'autres constructeurs. De constructeurs. Non, ce côté-là, on va dire, dans le central téléphonique, en fait, c'est plus l'inverse. Ils ont pioché des technologies chez des constructeurs. On est plutôt dans ce modèle-là. Oui, en fait, tu vas avoir peut-être 2-3 serveurs DSLAM qui sont communs à SFR, Orange, Bouygues, Deutsche Telekom, Air, O2, enfin... On va pas tous citer tous les clients, quoi.
La durée de vie quand même des box côté client est impressionnante. La Freebox Révolution a été lancée en décembre 2010. La Freebox V5 HD, actuellement Crystal, elle date de 2006. Quelle durée de vie on peut estimer donc de la nouvelle Freebox qu'ils ont lancée en décembre 2018, donc la Delta?
Alors, Xavier Niel s'est exprimé un petit peu sur le sujet et il a expliqué qu'en gros, à demi-mot, qu'il pensait pas que ça allait durer 8 ans, que ça allait pas en tout cas durer autant que la Freebox Révolution. Mais je pense que lui-même n'était pas pensait pas que la Freebox Révolution allait durer 8 ans, cela dit. Donc, c'est un peu par nécessité que la Freebox Révolution a duré aussi longtemps. Et, objectivement, elle est obsolète sur plein de points. En fait, ce qui se passe, c'est que, a priori, ils vont continuer à faire un système avec une Freebox principale et ce qu'ils appellent une Freebox intermédiaire, comme là, ils avaient fait la Freebox Mini 4K, par exemple, qui avait servi de Freebox intermédiaire. A priori, ils partent sur ce même schéma. Ils sont déjà, d'après ce que j'ai compris, en train de travailler sur une Freebox intermédiaire qui devrait sortir d'ici 2 ou 3 ans. Alors, avec les délais free, ce sera probablement un peu plus. Mais en tout cas, c'est le cycle qui se sont fixés. Donc, si on se fie à ça, la prochaine Freebox principale, dans 6 ans peut-être un peu moins, c'est dur à estimer.
Parce que quand même, moi, j'ai encore une révolution et je suis impressionné combien cette box est véloce, marche très bien sur une télé tant qu'on reste en format HD.
C'est ça.
Par rapport à d'autres opérateurs. Moi, je tombe des nues quand même que les opérateurs n'aient pas essayé de faire mieux depuis. Entre Bouygues qui avait fait un truc en flash qui était hyper lent et horrible. Qui est resté longtemps, Orange qui met un temps monstrueux pour zapper entre les chaînes.
Alors ça a été corrigé, ça c'est des correctifs.
SFR ça arrêtait pas de planter, c'était hallucinant.
Je m'en souviens encore de l'inauguration de l'évolution où j'ai fait planter devant les boss de SFR, j'étais mort. Mais...
C'est une super présentation devant les journalistes.
Oui. Si tu veux, le truc là, c'est que ils achètent, si tu veux, des décodeurs, des trucs comme ça, qui ont déjà une certaine puissance, qui ont déjà un certain gabarit. Mais si tu prends par exemple le décodeur Evolution de SFR, ils ont patché mais à mort ce décodeur pendant des années. Là maintenant, ça y est, ils ont une version qui est un peu plus stable. Et je vais te dire, c'est ce qui est utilisé.
Patché logiciellement ou matériellement?
Il y a eu du matériel, il y a eu du logiciel. En évolution, on est à une V4, un truc comme ça, pour les dernières qui sont proposées. Mais en logiciel, ils ont vraiment amélioré. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que il n'y a plus la capacité, c'est de la HD, les mecs veulent de la 4K. Donc du coup, le renouvellement pour les décodeurs, c'est à peu près tous les 4 ans. Chez tout autre opérateur confondu que Free, c'est à peu près tous les 4 ans où tu as une nouvelle génération de décodeurs. Habituellement, c'est accompagné d'une nouvelle génération de box. Mais après, c'est vraiment, tu vas avoir un renouvellement, mais en fait, tu as l'impression que c'est tous les 2 ans. Mais en fait, c'est simplement comme il y a actuellement, tu as une box principale, la majeure, celle où il va y avoir tout, et tu vas avoir la bon marché. Et en fait, ils renouvellent comme ça tous les 4 ans, à peu près.
Non, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que c'est surtout le software qui fait la différence. Parce que quand on regarde la Livebox 4, par exemple, qui, sur le papier, si on regarde vraiment les spécifications, elle serait capable de faire tout ce que fait la Freebox Révolution, et même bien plus. Mais en développement logiciel, autant sur l'interface télé, qui est une cata, enfin, qui est vraiment...
Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que sur la Livebox, il faut vraiment différencier la Livebox V4 et le décodeur TV V4.
Ouais, on peut parler, si tu veux, de l'interface web, c'est pas beaucoup mieux.
Ça, je te confirme.
Free a des offres, mais pas d'offres pour les professionnels. C'est que des trucs qui sont taillés pour les... Alors, pour les utilisateurs, c'est pour ça qu'il y a toujours une box télé. Avec autant de débit, il y a de quoi, par exemple, faire tenir une petite web agency avec 5-6 stagiaires à côté du patron, quoi.
Mais c'est prévu, hein. C'est prévu. Ils ont annoncé qu'ils comptaient se lancer sur un marché des entreprises. Alors, je me souviens plus quel horizon ils avaient communiqué. Je crois qu'ils avaient dit assez large. Ils avaient dit d'ici 2020, on se lancera sur un marché des entreprises. Mais en tout cas, c'est prévu. Ils comptent vraiment faire la guerre à Orange et SFR sur ce terrain-là.
Faut se souvenir que lorsqu'ils avaient racheté Alice à l'époque, Telecom Italia avait une offre pro.
Oui, c'est vrai.
Ils l'ont maintenu pendant un petit moment jusqu'à ce que le site disparaisse.
Comme tout chez Alice, en fait.
Tout à fait. On fait un break. DJ Ryzen. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have done my service in the club, you say. You're breaking up on me. Ryzen featuring Linkin Park, Lady Gaga, Beyoncé, Numb Telephone. Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons des box des opérateurs internet. notamment les internets fixes, avec Johan Ferré, Infested Grunt, journaliste spécialisé dans le sujet. Autant de fonctions, mais pourquoi je regarde toutes tes fonctions, notamment le NAS, le fait que tu puisses télécharger en BitTorrent sûrement des trucs Lego, mais pourquoi Free n'y propose pas de l'auto-hébergement dans ses box? Genre les services des chatons de Framasoft, c'était pas si compliqué avec un très gros NAS, non?
Ah, mais on ne sait pas en fait, on n'a pas la réponse concrètement, on ne sait pas pourquoi ils ne se lancent pas sur ce terrain-là. Je pense que c'est un truc un peu niche, mais en même temps ça leur a jamais fait peur de proposer des trucs un peu niche, surtout côté serveur. J'ai pas de réponse spécifique là-dessus. Je pense que ça a été mis sur la table à un moment donné. Après, est-ce qu'ils l'ont pas fait sur Révolution, peut-être par peur de saturer un peu trop le processeur? Dans ce cas-là, peut-être qu'on le verra arriver sur Delta. Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Mais bon, je pense que les devs seraient très intéressés pour proposer ça.
Moi, je me dis, ils ont peut-être peur de qu'on fasse concurrence à Online.
Ah. Et oui, c'est vrai qu'ils sont aussi hébergeurs, dans le même groupe. En tout cas, donc on a des équipements qui sont capables d'être serveurs, et même on peut accéder à distance pour récupérer des fichiers et tout ça, mais est-ce que c'est bien sécurisé? Par exemple, il y a eu l'affaire du remote access qui était accessible chez Orange, c'est-à-dire qu'on pouvait voir les box de ses voisins et déconnecter des services. Plus récemment, il y a eu les modems de Deutsche Telekom qui ont été piratés en Allemagne. Je crois que ça a été 1 million de clients offline avec une bête variante du botnet Mirai. Est-ce que vraiment ils ont sécurisé?
Alors, pour la Free, là, je sais pas pour Free. Moi, d'habitude, je regarde souvent mes modems, donc pour ce genre de truc. Donc, pour Free, je te laisse, Lyon, sur ce coup-là.
Très sincèrement, j'ai pas de réponse là-dessus. Ils ont un historique qui est pas dégueulasse sur le sujet, en tout cas. Mais de là à savoir s'ils sont 100% protégés et si vraiment ils sont à l'abri de tout type d'attaque, ça c'est très compliqué à dire, évidemment.
Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont pas eu de fuite majeure par rapport aux 3 autres opérateurs qui étaient tous au bout d'un moment tombés dedans. Sur Remote Access.
Là au show Hello, Orange a présenté une
je précise, on enregistre une semaine après la présentation de Free et hier a eu lieu le show de l'opérateur Orange, donc où Infested était présent.
Et il se trouve qu'il y avait une application justement qui va être mise à disposition des abonnés Orange, mais je pense que ça peut être ouvert à d'autres services, où en fait on va pouvoir tester la sécurité de nos équipements internes au réseau. Et éventuellement mettre en quarantaine un appareil qui va être verrouillé ou on a une suspicion.
Question de l'IoT et tout ça qu'on a abordé déjà dans cette émission. Quoi.
Voilà, et en fait, ils vont mettre à disposition une application qui va nous permettre de tester tous ces équipements et voir s'il y a une vulnérabilité connue, voire même tester la robustesse des mots de passe.
Et ça veut dire qu'il faut leur donner les mots de passe alors.
Non, justement, ils vont juste tester.
Ah, ils vont faire.
Ouais.
Waouh.
Alors, je sais pas trop comment fonctionne l'application. Sur la démonstration, comme d'habitude, ça a planté. Donc, du coup, j'ai pas pu voir toute la démo, mais en tout cas, du peu que j'ai vu, une petite vulnérabilité qui était sur un vieil équipement dans un coin, le machin l'a détecté et quand tu voyais le truc, tu fais OK, oui, non, le truc, Mira, il a dû y passer dessus sans aucun souci. Mais ça, je l'attends, j'attends vraiment de voir la version finale. Et quand ce sera fait, autant te dire que je vais visiter des gens pour aller voir si ça marche.
La différence, donc ce qu'a amené Free fin de 2018, c'est que maintenant l'appareil on ne le loue plus, au moins avec donc la Freebox Delta avec donc les super enceintes développées et tout le reste, c'est que l'utilisateur va l'acheter. Et donc si l'utilisateur devient propriétaire des appareils, est-ce qu'ils sont réutilisables chez d'autres opérateurs? Et est-ce qu'on a enfin un redécouplage entre les modems et les réseaux?
Alors, sur le redécouplage, pas vraiment, parce que concrètement, t'es quand même toujours obligé d'acheter ton player Delta à 480 € pour t'abonner à l'offre Delta. Donc, le découplage, il n'est pas encore tout à fait là. En revanche, c'est vrai que du coup, comme tu achètes le boîtier, ils ont été obligés de travailler à l'indépendance de ce boîtier par rapport au réseau Free. Et très clairement, de ce qu'on a entendu, et ça reste encore à vérifier par des tests, le player Delta est très très indépendant sur n'importe quel réseau. Tu peux te servir d'à peu près toutes ces applications en dehors des applications purement Freebox, c'est-à-dire Freebox TV, Freebox Replay.
Pour info, tu avais encore il y a quelque temps, tu pouvais acheter la Neufbox, tu pouvais acheter la Livebox, tu pouvais t'en servir sur d'autres réseaux, mais par contre, le seul truc que tu ne pouvais pas avoir avec, c'était ni la téléphonie, ni la TV. L'uniquement de l'Internet, tu avais un routeur de base.
Donc ça marchait vraiment comme modem.
Ça marchait vraiment comme modem, ouais. Fallait juste leurrer le mot de passe, parce que tu avais FTI ou 9 slash, fallait juste leurrer le truc en rajoutant ce 9
machin. Ah oui, mais du coup, c'est encore un peu de la bidouille quand même.
Ouais, mais si tu veux, c'était que tu revenais avec le système des anciens modems, on va dire. Où tu étais obligé de taper FTI slash ton identifiant.
Et du coup, donc sur le réseau de Free, est-ce qu'on peut ne pas utiliser le modem de Free ? Acheter, utiliser un modem ADSL, XDSL ou fibre optique standard, avec par exemple un très gros routeur derrière ?
Moi, aucun problème. Il me semble que moi, j'ai déjà vu des gens qui utilisaient des modems, des vieux modems sur le réseau de Free. J'ai pas vu de spécificité. Seulement, tu n'as pas les services accessoires.
Le fait que l'Apple TV, la Google TV ou Android TV n'est pas décollé en France, est-ce qu'il y a un rapport finalement avec ces offres qu'ont fait les opérateurs avant que ces set-top box arrivent ?
Ouais, non, mais oui, c'est évident. C'est évident parce que quand tu regardes dans d'autres pays, déjà, ça marche beaucoup mieux. Donc, de toute évidence, c'est qu'il y a un truc en France qui fait qu'il y a une sorte d'exception. Et au-delà de ça, bah, quand on se sert un peu d'Android TV ou d'Apple TV, y a des trucs où on se dit « Ah, je reviendrai bien à ma Freebox quand même, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. »
Ah ouais, à ce point, c'est maintenant...
Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein, donc c'est-à-dire que chacun a ses qualités et ses défauts. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tous les opérateurs ont plus ou moins tenté à un moment donné de se lancer sur Android TV. SFR, je crois qu'ils font plus rien à SFR,
si,
mais
si,
ils
si,
sont
si,
clairs.
Si, si. Si,
ils ont encore.
Si tu veux, il y avait un premier décodeur qui mourut avec le rachat par Numéricable.
C'est à celui-là que je pensais.
Il y avait celui-là, mais récemment, à cause de RMC Sport, ils ont relancé un nouveau boîtier qui s'appelle le Connect TV qui utilise Android TV. Donc du coup. Ils ont relancé, mais c'est parce qu'il y avait un besoin extérieur de faire de l'OTT.
Et Bouygues a un boîtier...
La Miami, ouais.
La Miami Box, effectivement, avec aussi la reconnaissance vocale sur la télécommande. Y a-t-il encore un intérêt à une box opérateur télé avec les box OTT ou les services comme Amazon Prime, Netflix, dispo sur les consoles de jeux ou les télé connectées ? Est-ce que franchement, ça a un intérêt encore de faire une box télé ?
Alors oui, parce qu'en fait, tu vas avoir un service TV, comme la Freebox TV ou la TV d'Orange ou SFR TV, où tu as toutes les chaînes qui sont réunies au seul endroit. Là où tu vas avoir un Apple TV, un Android TV, tu vas devoir aller télécharger chaque chaîne. MyTF1, France TV, Sisplay, tu vas devoir te prendre chacun individuellement. Et quand tu as envie de zapper, le truc normal quoi. Bah, tu vas devoir changer d'application aller sur l'application correspondant. Après, tu vas avoir des services qui vont regrouper comme Molotov, mais il faut d'abord que tu accèdes immédiatement à Molotov. Là, l'avantage, c'est que tu allumes ta Freebox Révolution, là, et tu es directement sur la chaîne que tu as regardée la dernière fois.
On revient après cette coupure.
Oh man! All right! The talk box, the funk box, the jam box, the shit box, the stuck box, the funk box. I won't have it in the damn box. Yes, as I interrupt your interlude, I rock with the style and get you kinda rude. Like the rude boy, I annoy like P.E. I bring the noise. One time for your mind, this is for the boys. People in this world want to put labels on. I won't have it like Saddam, I drop the bomb, word is born. I bring it on like Farrakhan, nation of Islam.
Yes, word is born. I am the man with the plan. I have arrived and I beam down like Star Trek. James T. Kirk Enterprise. In case you did not know, Dynamax rip a hole in the flow. To let you all know, I won't be having that. Stuck in the matrix, so won't you face it? Here's a piece, a taste of life, so won't you taste it? The basic, you can erase this if you tried. An attempt, you beat and die. The talk box, the funk box, the jam box, the shit box, the stuck box, the funk box. I won't have it in the damn box. The talk box, the funk box, the jam box, the shit box, the stuck box, the funk box. I won't have it in the damn box. I am rapping, this story is told like my man tapping. Sundance, kids Sundance, no romance, no chance to enhance the flow, enhance the growth. I come through in time, just to blow. I can't stand people trying to be a judge, predicting things about us. How we do our music, causing a fuss. Say we can't sample this, sample that, play this, play that. In fact, to be original is unpredictable. I let you know what time it is, we have to be spiritual. I reach you through the house, the jazz, the razzmatazz, trip hop, the whole style, it ain't flip flop. It's the real McCoy. I be the real B-boy, a style never annoyed. You wanna shake it, shake it, get down. Funk to the rhythm and rock to the sound. The funk box, the jam box, the shit box, the stuck box, the funk box. I won't have it any other way, man. The funk box, the shit box, the talk box. Can't do what I want, cause I'm straight from the boondocks. The ghetto box, locked in a damn hole. I won't have it, yes, like James Brown, I got soul. I maintain while I rumble, like the bees I bumble. You don't wanna really rumble in the Bronx like Jackie Chan. Who's the man? Dynamaximum with the mic in my hand. Like Funkadel, the P-Funk All-Star. I maintain coming through from the sun, moon, and star. Give respect to Parliament. I represent in this world to be just one element. I'm a pebble, a renegade, a rebel. My style is on point. I roll with gods, never the devil. Me and my people, we only one universal being. We make music. Nah, me, nah, me. I won't be locked in a damn box, cause I come straight from the boondocks. Yes, y'all, the phone box, the talk box, a shit box, no kind of box. I won't be locked in a box. You don't know about the box. I won't be there non-stop. I believe in breathing, I believe in exceeding the point mine. I am treacherous, stupendous, tremendous, the highest, you should recommend this. Medicine. Beautiful people, red, brown, black, young, blue, green, aliens, the funk, baby.
Booster, The Box, extrait de l'album Loop in Release, sorti en 2001.
You feeling me, man? I think I'm stuck in the box, man.
Vous écoutez Radio FMR? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Johan Ferré et Infested Grunt, journaliste spécialisé en fournisseur d'accès Internet, pour parler justement des offres Triple Play et surtout du principe mégalomaniaque, ou plutôt mégalithe, la box ADSL. 15 ans après le lancement, est-ce que le modèle des box est-il en train de s'essouffler ?
Non, en fait, en France, ce qu'il y a de vraiment spécial, c'est que le concept des box, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français, voire européen. Tu ne trouveras pas ce principe de box ailleurs. Tu
vas toujours aux États-Unis.
Aux États-Unis, tu vas avoir Altice, car ouais, mais avec le câble, le truc là, c'est que tu vas avoir via le décodeur TV, mais tu vas souvent avoir un service à côté, un boîtier indépendant. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi, quand je regarde, on passe plus de package que de box réellement. du fait que bah il faut pouvoir changer les technos, les trucs comme ça. Mais si tu veux, le concept de boxe tel qu'on le connaît nous en France, c'est sûr que ça va perdurer parce qu'on a on a mariné là-dedans. Si un opérateur ne propose pas de boxe, là par exemple, il y a les deux banques CIC et Crédit Mutuel qui se sont lancées dans la boxe. Ils ont été obligés de démarrer directement avec la boxe. Ils n'ont pas imaginé de démarrer avec juste Internet et la téléphonie.
Mmh. Johan ?
Je pense que commercialement, c'est effectivement compliqué de réussir sans proposer au moins une offre boxe. Après, du point de vue de l'utilisateur, il y a peut-être plus de choses qu'on peut faire actuellement si on décide de prendre un accès Internet pur, quoi, vraiment juste le tuyau. Effectivement, grâce aux Android TV dont on parlait tout à l'heure, les services OTT sont bien meilleurs qu'il y a quelques années. On parlait de Molotov, il y a aussi MyCanal qui est très très bon. Franchement, il est très très bon. J'ai entendu le petit rire.
Bah oui, parce qu'il coule.
donc il y a ce côté-là qui fait que la box, elle est un peu moins indispensable en fait. Mais ça va être chez des débrouillards, quoi, chez des gens qui ont envie de payer moins cher, quitte à bidouiller un petit peu.
Free a longtemps conduit les tarifs ADSL vers le bas. Ils ont fixé le tarif emblématique 30 euros par mois en 2002. Et il est encore en vigueur 15 ans après. Là, ils les augmentent, mais nos voisins européens ont-ils de meilleurs tarifs que nous ?
Alors non. Non, franchement, quand tu regardes nos voisins, je vais déjà parler de nos voisins immédiats. Belgique, Espagne, Suisse ou Italie. Alors, en Suisse et en Italie, on a déjà le foutoir avec Salt, avec justement les opérateurs. Ça commence à se retravailler, les trucs comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que en Italie, Telecom Italia a encore la main sur l'équivalent de l'ARCEP local. Donc du coup, c'est encore un peu le bordel. Ils ont des offres box. Tiscali à l'époque avait commencé à faire des offres un peu box comme il le faisait à la française. Ils se sont joyeusement rétamés. Et ensuite les offres, si on reprend l'offre de 30 euros telle que tu le connais avec juste internet, les trucs comme ça, en Italie il faut que tu comptes 45.
Free a donc lancé un forfait plus cher et ils vendent un matériel très cher, hein, avec. Il faut quand même reconnaître que c'est un matériel haut de gamme, mais ils le vendent quand même. Est-ce que maintenant, Free ne serait pas en train de devenir trop cher ?
Trop cher, c'est un peu... Pour moi, la Freebox Delta, elle n'est pas trop chère, si tu veux. Elle est à 50 euros par mois. Le vrai souci, ça va plus être le fait de devoir payer sa box à côté qui va te rajouter 10 euros par mois pendant 4 ans et du coup, ça passe à 60 euros, qui commence quand même à piquer pas mal. Après, si tu compares ça, par exemple, à Orange, qui me semble, fait toujours un forfait Livebox, je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est plus Jets.
En fait, la up, elle est au niveau de la Play. Déjà, tu descends d'un cran.
Quelles sont les demandes que vous avez notées des clients après la présentation, qui semblaient être, pour certains, assez déçus ? Johan, je crois que tu as une liste, d'ailleurs.
Ouais, comme je disais, le prix de la box est quand même un gros souci, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont très attirés par le côté serveur de la Delta, avec le Super NAS, le 10 Go en fibre, l'agrégation XDSL 4G pour ceux qui n'ont pas la fibre. Tout ça, c'est un truc qui plaît énormément. Il y a plein de gens qui se disent, mais moi, je veux payer 50 euros par mois pour ça, mais par contre, je veux pas du player, il sert à rien. Enfin, j'en ai pas l'utilité, je veux pas payer 480 euros pour ça. Ça, c'est vraiment la plus grosse plainte et de très loin qu'on a pu lire, quoi. C'est-à-dire vraiment qu'on parlait du côté découplage et non, là pour le coup, il n'y a pas de découplage du tout. T'es vraiment obligé de passer par là pour avoir le côté serveur qui plaît beaucoup à certains.
Qu'en est-il des API ? Peut-on par exemple installer un autre service de reconnaissance vocale qu'Alexa ? Puisque par exemple, il y a des services qui existent qui permettent de faire la gestion des commandes en local au lieu que ça parte sur le cloud.
Il y a déjà un assistant autre qu'Alexa, l'assistant Freebox, donc que tu peux appeler en disant OK Freebox, voilà. Et ça, c'est un truc qui a été, voilà. C'est là qu'on entend que j'ai pas la box chez moi, hein, pour le moment.
D'où l'effet spécial.
Et effectivement, ça a été développé en interne par Free. Est-ce qu'on peut soi-même intégrer son propre assistant ? Non. Par contre, on peut choisir de n'avoir que l'assistant Freebox si on veut pas passer par Alexa, parce qu'on n'a pas envie d'être écouté par Amazon. On peut choisir de désactiver tous les assistants parce qu'on trouve que ça sert à rien. Ils ont été assez complets là-dessus. Ils ont mis un switch pour pouvoir couper le micro physiquement sur la box. Ils ont implémenté leur propre reconnaissance du mot-clé Alexa. Ils l'ont mis en open source d'ailleurs, il me semble. Enfin, ils ont vraiment fait les choses assez proprement. Je pense que c'est un peu un gage de bonne volonté. Ils savent qu'il y a des gens qui vont être effrayés par le côté Alexa, justement.
Et l'interrupteur coupe physiquement le micro, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est un relais optique, ouais. Mais du coup, ça coupe vraiment la ligne et pas uniquement désactive la fonction. Free a lancé vraiment le triple play, donc on l'a dit, en 2002. Très vite, d'autres opérateurs qui sont lancés les ont doublés en proposant aussi la téléphonie mobile. Il a fallu que Free devienne un opérateur mobile pour pouvoir arriver au même niveau. Maintenant, ensuite, il y a eu SFR qui a intégré la presse, donc proposé le quintuple play. Free vient donc de répliquer avec le sextuple play. Internet, téléphone, télé, mobile, presse, agent de sécurité. Manque l'eau, l'électricité. Est-ce que, franchement, ça ne va pas un peu trop loin dans le couplage ?
Déjà, est-ce que tu as regardé la brochure tarifaire de la Freebox Delta ?
Oui.
Ouais.
moi oui, mais lui.
Parce que niveau couplage, c'est un truc où on te présente. Alors c'est bien, t'as un Netflix qui te coûte 6€ par mois, t'as TV by Canal qui te coûte 25€ par mois ou je sais plus exactement combien.
C'est ça, c'est 25.
Et après ils te mettent une énorme remise sur voilà. Tout ça. C'est vraiment c'est pas très lisible quoi. Après. Je doute pas encore une fois que ça va intéresser certaines personnes qui ont envie vraiment d'avoir une offre assez luxueuse, assez complète par défaut. Mais en termes de lisibilité, quand on bosse sur des sites internet, c'est l'enfer de parler de ça, quoi.
Ouais, mais d'un autre côté, on couple tellement. Par exemple, t'as Bouygues Immobilier qui construit des immeubles d'habitation, qui propose à l'achat ou à la location. La banque CIC Crédit Mutuel qui propose des offres ADSL avec la location de fleurs et l'assurance de la voiture que tu peux préacheter chez eux. Est-ce qu'on ne va pas vers des couplages tellement forts des offres qui va devenir au bout d'un moment impossible de panacher si l'Europe ne tape pas du poing sur la table.
Bah, le truc qu'il y a, c'est que la plupart des couplages, elles sont d'une grande logique. C'est-à-dire que là, c'est que si tu prends Internet, téléphone, TV, mobile, c'est le télécom. Mmh. Tu rajoutes la presse, mais c'est parce que la presse est venue sur le numérique. Donc du coup, comme c'est un abonnement numérique, tu peux le rajouter, aucun souci. La sécurité, bah, ça passe par la ligne téléphonique. La prochaine étape, moi, je la vois plutôt vers l'électricité, vers l'énergie, parce que c'est deux composantes qui sont nécessaires. La bagnole, autant, oui. C'est vraiment pas lié à moins, sauf un seul cas, c'est la carte SIM qui va être nécessaire dans la bagnole pour que l'assistant accède au GPS, accède à tout le réseau. Mais en dehors de ça.
Ça, c'est négocié en gros par les fabricants.
Voilà, donc, mais si tu veux, c'est ce couplage-là. Il paraît logique parce que c'est un univers qui sont très proches. Par contre, avec le fleuriste, c'est plus du service annexe, c'est plus des choses comme ça. Mais si tu prends la sécurité, en 2014, tu avais Orange et SFR qui se battaient à coups de promo pour imposer leur boîtier de sécurité avec Home Life d'un côté et Home by SFR de l'autre. Et tu avais quoi ? Tu avais un pack à installer. Tu avais un abonnement à souscrire pour obtenir de l'assistance, des trucs comme ça. C'était en option, de temps en temps c'était offert avec la formule premium ou une promo de Noël, mais en dehors de ça, c'était vraiment des trucs qui étaient à part et c'était vraiment si on en avait besoin, si on avait vraiment besoin. Là, le problème qu'a la Delta et son décodeur des Violettes, c'est que t'as tout d'un truc qui est d'un bloc qui est contenu et tu peux pas séparer l'intégration, là elle est trop forte. Si tu veux, là on est vraiment sur un truc qui est vraiment trop fort. Et le pack sécurité, moi les premières offres, c'était tu avais 99€ de frais de mise en service où tu avais tout ça, mais si tu enlevais le pack sécurité, si tu enlevais le disque dur, c'était que 10€ qui étaient remboursés sur la facture. Non, de base, tu étais obligé de te prendre ces packs à la con que tu voulais pas quoi en gros. et en temps remboursé de juste de 10. Là, depuis hier, je crois que c'est depuis hier où ils ont changé, où là maintenant, si tu prends le pack, ça te coûte 50€, si tu prends le disque dur, ça t'en coûte 49, ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens c'est.
Mmh. Oui, c'est un truc comme ça.
Hier, puisque donc on enregistre le 13 décembre, je le rappelle encore, 2018, pour ceux qui nous écouteront dans deux siècles. Je vais terminer parce que quand même, du coup, l'interview est tellement longue, je pense que là...
on va couper.
Il y aura la version longue sur Internet.
D'accord.
Johan, Infested, chacun donc de vous deux travaille sur un des sites. Donc il y a Free News pour Johan et toi, donc il y a une multitude de sites, mais surtout ecodunet.net. Mm-hmm. Vos sites affichent de la publicité.
Ah non.
D'accord. Une sortie de Freebox, c'est beaucoup de rentrées publicitaires pour toi, Johan ?
Ouais, alors très clairement. Mmh. Surtout que, faut remettre dans le contexte, ça fait quand même très longtemps qu'on l'attend, quoi. Donc, si tu veux, là, l'actu Free, ces derniers mois avant la sortie de la box et avant toutes les rumeurs autour de la sortie de la box, c'est vraiment le calme plat. C'est, tiens, il y a un nouveau téléphone qui est sorti sur la boutique. Voilà. Tiens, enfin. Donc voilà, donc c'est pas ça qui attire les foules.
Il y avait aussi le changement de passer de l'engagement, de promo avec des engagements. T'as vu que
ouais,
ça.
Ouais, bah après, c'est toujours la même chose chaque semaine, quoi. Voilà. Donc, non, c'est si tu veux, si tu ressens le côté blasé, c'est parce que clairement, c'est pas le genre de truc qui t'attire un lectorat fidèle et c'est vraiment, il faut qu'il y ait à un moment des grandes sorties comme celle-là pour faire, enfin, clairement, si on n'avait pas ça, je sais pas quoi. Enfin, oui, les rentrées publicitaires sur ce genre d'événement sont très importantes. Et après, c'est quand même sur un certain temps. C'est-à-dire que là, depuis, ça fait un peu plus d'une semaine que la Freebox a été présentée. Notre courbe redescend assez peu en fin de compte. Tous les jours, les gens viennent pour voir ce qui se passe. Est-ce que les migrations ont commencé? Tiens, est-ce qu'on peut faire ça avec la box? Qui viennent pour se renseigner. Voilà, c'est sur un certain temps, je pense qu'on va en ressentir les effets. Peut-être sur plusieurs mois, je dirais.
D'où l'importance pour 01.net de dire que la Freebox sera la semaine prochaine depuis 2 ans. Yoren, merci beaucoup de nous avoir rejoints par satellite, fibre optique et tout le reste.
Merci à vous.
Il fait cette grunt. Merci beaucoup d'être venu un jeudi à la place d'un samedi.
Oh, c'est pas grave, hein, tu sais. C'est juste de la lecture en moins, c'est tout.
Voilà, cette interview, l'intégralité sera publiée sur le site cpu.pm parce qu'elle a duré plus longtemps que prévu et donc elle a été enregistrée le 13 décembre 2018, donc une semaine après l'annonce de Free, le lendemain de l'annonce d'Orange que Free ne voulait pas trop assombrir. Et je ne sais pas si SFR et Bouygues ont prévu des offres en béton de leur côté.
Non, pas encore, de ce que je vois, non, pas encore.
En tout cas, merci, c'était encore une fois vraiment un immense plaisir d'avoir fait ce débat façon chaîne info qui essaie de meubler. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief Connecting Officer, Infoset Grunt, Chief Wireless Officer, Johan Ferré, Chief Bayonet Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, du débat qui dure 57 minutes, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. qui me traite souvent de triple muse, c'est vérité.